On est dans la dernière session, ça va, vous tenez le coup? Vous n'êtes pas trop fatigué? Si je vois que vous commencez à vous endormir, je vais baisser la voix pour ne pas, pas vous déranger. Alors, donc mon thème c'est redécouvrir l'importance du ministère de l'apôtre. Notre premier, elle veut, oui, excusez-nous. Ça va. Bon, alors, redécouvrir l'importance du ministère de l'apôtre. Le but de mes enseignements, ce n'est pas de faire de vous tous des apôtres. Vous avez compris? Parce que ce serait complètement le contraire de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est remettre Dieu dans sa maison. On veut dire, on ne veut pas un temple fait de la main d'homme, parce que Dieu n'y est pas. Et pourtant, c'est facile de faire un temple de la main d'homme. C'est facile. Partout, on le voit. Pas seulement chrétien. Mais Dieu n'y est pas. Ça, c'est pas acceptable pour nous. Donc le but, c'est de revenir sur l'importance du ministère, et en particulier l'apôtre, parce que l'apôtre, portant cette dimension de l'esprit et son autorité spirituelle, a en fait été à la base de l'Église primitive. Et donc on se dit, les seuls vrais chrétiens sont les premiers, la seule vraie Église, c'est la première. Vous me regardez un peu de travers, là. Donc on veut revenir à ça, aux racines. Et si on veut revenir aux racines, eh bien on doit revenir au ministère apostolique et remettre en valeur. Alors, première déclaration, j'en ai six, j'en ai fait qu'une ce matin, mais c'est pas grave, je mettrai le turbo et puis vous allez voir, on va y arriver. Mais la première, c'était un apôtre est avant tout un envoyé de Dieu. Les conséquences, eh bien, vous avez vu ce matin, les conséquences de ça sont très importantes. Deuxième déclaration, un apôtre est envoyé vers un public précis. Il est envoyé vers une catégorie de personnes. Il n'est pas simplement un pasteur d'une église locale. Ce n'est pas péjoratif ce que je viens de dire. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes pasteur d'église locale. Vous faites un travail remarquable localement, courageusement, je dirais, parce que les temps sont pas faciles pour les pasteurs. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, être pasteur, c'est plus difficile que ce qu'a été il y a 25 ans. Pour toutes les raisons que je vais pas élucider cet après-midi, mais je peux vous dire, vous, pour répondre à l'appel d'être pasteur, vous avez beaucoup de courage. Alors, Mais c'est pas un pasteur d'une église locale qu'on va appeler apôtre. C'est pas parce que quelqu'un prêche bien ou a écrit un livre qu'on va l'appeler apôtre. Ici, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Rappelons-nous la formule. Dieu a un plan, il a une idée, il formule un plan, il envoie un homme ou une femme. Pas un conseil d'administration. Et donc, il envoie un homme, une femme, à une catégorie de personnes. Pour l'apôtre Paul, c'était les païens. C'est vaste, les païens. C'est quoi ta paroisse, les païens? Pour Pierre, c'était pas les païens. C'était les circoncis. Oui, bon, mais les femmes aussi, hein. Les femmes des circoncis, quoi, aussi. Et donc, ça, c'est Pierre. Pierre était clair par rapport à son public visé. Timothée, qui avait été envoyé par Paul dans différentes situations, il a été finalement envoyé aux Éphésiens dans un travail apostolique, dans un apostolat envers les Éphésiens, une ville en Turquie aujourd'hui, mais une ville à l'époque importante. Et de cette ville, ou dans cette ville, est née une des plus belles églises du Nouveau Testament. Tite, lui, a été envoyé par Paul, mais par Dieu, en Chypre. Les Chypriotes, pour les Chypriotes. Et donc, il y a une notion de vers qui un apôtre est-il envoyé et qu'il reste dans ce créneau-là. Antoine, c'est Dieu est allé le chercher dans les montagnes de la Pologne, fils d'un apôtre, parce que les grands apôtres font des petits apôtres. Et il a pris le petit apôtre, il ne l'a pas laissé là, il l'a ramené dans le nord de la France, et a dit, c'est là où tu vas travailler et exercer ton apostolat. Et aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas besoin de vous expliquer la suite. Moi, en ce qui me concerne, moi, si c'est Dieu qui m'a envoyé, il est allé me prendre dans les tropiques australiennes, loin d'ici, m'a ramené en France. Pourquoi ? Parce que mon public précis, c'était les Français. Et ce qui est extraordinaire dans les voies de Dieu, c'est que ma famille a ses origines dans le Nord, à Roubaix. Mon grand-père est né à Moucron. Vous allez dire, ça se voit. Je suis un quart belge et trois quarts français du nord de la France. Et dans la sagesse de Dieu, lui, il m'a cuisiné en Australie avec tout ça pour en amener en France pour faire équipe apostolique avec un Polonais qui a été cherché en Pologne pour le nord de la France pour créer une équipe apostolique. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Et depuis 30 ans, eh bien, on fait cette équipe apostolique, Antoine, c'est comme ça, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Sauf qu'il y a eu un changement. Parce que pendant des années, c'était Vincent et Antoine. Depuis la création d'Emma, c'est Antoine et Vincent. Maintenant, c'est moi qui cours après lui. Mais moi, j'ai dit Antoine, moi je te soutiens. Mais fais pas n'importe quoi, hein, quand même. Mais l'équipe, elle est là. Et je ne connais pas beaucoup d'équipes en France qui ont travaillé pendant 30 ans ensemble. C'est quand même remarquable. Mais c'est cette notion que Dieu... Et si je j'insiste sur ça, c'est parce qu'on reconnaît Dieu dans ça. C'est inouï ce qui s'est passé là. Dieu est allé chercher un Polonais pour ramener le nord de la France, pour travailler dans le nord de la France. Il va chercher un Australien fait de parents nordistes ch'ti pour revenir ici, pour travailler dans une équipe apostolique. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On veut revenir à Dieu dans cette affaire maintenant. Nous avons beaucoup d'exemples d'apôtres qui étaient envoyés à un public personnel, particulier plutôt. Douglas Scott, pour les bons pentecôtistes, a été envoyé d'Angleterre en France pour amener le pentecôtisme en France. Remarquable. Et ce qui est étonnant, c'est que quand Dieu envoie quelqu'un comme apôtre, eh bien, on ne perd pas son accent. Vous avez remarqué ? J'aurais pensé qu'au moins, il nous libère notre accent. Et puis non, bah Scott, lui, parlait très mal le français. Antoine, lui, il dit toujours « ré » plutôt que « re ». Moi, je loupe mes subjonctifs, mais vous aussi. Aimé Cizeron, apôtre de la Réunion, les années 60, je crois, Jules, hein? Les années 60. Jules Rondrian-Jouhary, apôtre à Madagascar, Dieu est allé le chercher au milieu des bœufs, parce qu'il était un gardien de bœufs sans éducation, et il a propulsé dans les plus grandes villes du pays, au plus haut niveau du pays, au point où il s'est même présenté comme président, candidat à la présidentielle de Madagascar. Vous vous rendez compte? Bon, il n'a pas gagné. Reinhard Bonnke, vous avez entendu parler de ce nom? C'est un autre avec un accent, hein. Eh bien, lui, il est allé chercher un Allemand pour l'envoyer en Afrique. Et lui, ce qu'il a fait en Afrique est remarquable. Il a essayé de reproduire la même chose en Europe, ça n'a pas marché. Bon, ça a marché un peu. Mais il n'était plus dans son milieu. Parce qu'il était un apôtre pour l'Afrique. Trevor Chandler, je vous ai parlé de lui. Lui, c'était l'Australie. Il est venu de la Nouvelle-Zélande. Dieu est allé le chercher, lui, qui était un homme d'affaires réussi et prédicateur les week-ends en Nouvelle-Zélande et très connu dans toute la Nouvelle-Zélande. Dieu est allé le chercher et l'envoyer en Australie et son ministère a fait fureur dans les années 70 en particulier. Hillsong, vous avez connu, vous avez entendu parler d'Hillsong, bien sûr que oui. Le pasteur principal de Hillsong est Brian Houston, je le connais. Eh bien, lui, il a été propulsé vers la jeunesse du monde entier. Mais c'est extraordinaire. Le travail qu'il fait touche toute une génération de jeunes dans le monde entier. Au point où ils sont sur le point de sortir un film, pas produit par des chrétiens, mais produit par Hollywood ou l'équivalent, et qui est... Ils ont été interviewés, ils ont fait le champ sur l'équivalent de France 2 là, le matin, c'est quoi? C'est avec l'énergie. C'est comment là? Ben, vous ne regardez pas? Matin quelque chose. Télématin, non. Ben oui, ben c'est l'équivalent en Amérique, eh bien ils ont fait venir Hillsong, et puis hop, ils ont fait leur chant, et puis les présentateurs étaient en larmes, tout le monde regarde ça, ça va dans le monde entier. Dieu a envoyé un homme vers une jeunesse de cette génération. C'est extraordinaire. C'est Dieu ça. Donc, comprenons que nous sommes devant quelque chose qui nous dépasse, et qu'on ne peut pas produire soi-même. Et alors, quand quelqu'un vient me voir en disant « C'est qui ton apôtre ?» Moi, je dis « Oh, pfff !» Troisième déclaration. Il y a un sceau d'un apostolat. Il y a un sceau. Un sceau, ça veut dire une preuve. Il y a un sceau d'un apostolat. Et la preuve de l'apostolat, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Regarde ce que 1 Corinthiens 9, verset 2, Paul nous dit. Non, ça, on est... Oui, voilà. Sauf que c'est sous point numéro 3. Il y a un sceau d'un apostolat, mais le verset, il est bon. 1 Corinthiens 9, 2. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. Il faut une authentification de l'apôtre et c'est les gens qui sont marqués par son ministère, les preuves. Alors, est-ce que vous avez un billet dans votre poche, là? Est-ce que vous avez un billet dans votre poche? Non, vous avez pu parce que vous avez tout donné. Ben, félicitations. Mais moi, j'ai pas tout donné, j'en ai encore un. On peut encore faire une offrande si on veut, hein. Mais sortez le billet, regardez un peu. Ici, j'ai un billet de 20 euros. Est-ce qu'il est vrai? Parce qu'il y en a qui font des contrefaçons. Mais comment savoir si ça, c'est vrai? Est-ce que c'est parce que c'est marqué 20 euros dessus? Ben non, pas du tout. Parce que les faux, eux, ils ont 20 euros aussi. Est-ce que c'est parce que c'est la couleur bleue? Non, non. Parce que les faux, c'est la couleur bleue aussi. Non, non, il y a trois preuves que ce billet est légitime. Il est authentique. Première, c'est la fenêtre. La fenêtre, comment ils appellent ça? Le portrait-fenêtre. Le portrait-fenêtre, il est là, le portrait-fenêtre. Ça, on l'a devant nous. Deuxièmement, il y a le portrait filigrane. Il est là, celui-là. Si je le tiens à la lumière, je le vois parfaitement. Et troisièmement, il y a le fil de sécurité qui traverse le billet. S'il y a le fil de sécurité qui traverse, mais il n'y a pas le portrait fenêtre, il n'y a pas le portrait filigrane, moi je dis, je vous le rends, hein, celui-là, il ne m'intéresse pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves d'authentification, que c'est authentique. Eh bien, quelles sont les preuves que quelqu'un réellement a un apostolat, qu'il est un apôtre et qui peut aussi être écouté en tant que tel? Parce qu'une fois qu'on a appris que Dieu a envoyé quelqu'un et on a besoin de l'écouter, eh bien l'accueillir, eh bien il faut être sûr qu'on a les preuves d'un apostolat avant de commencer à dire, ben voilà un apôtre. Alors c'est très simple, Paul dit, je le suis au moins pour vous. Pas pour eux, mais pour vous, qui sont l'empreinte, qui authentifie mon service tant qu'apôtre dans le Seigneur. Alors ça veut dire que quand les gens discutent, est-ce qu'il est apôtre ou est-ce qu'il n'est pas apôtre? Hein, les gens, ils aiment discuter ça. Est-ce qu'il est apôtre ou il n'est pas apôtre? Alors, la réponse, eh bien, c'est pas compliqué, mais c'est facile de discerner un apôtre. Où sont les gens? Qui sont les gens? Quand il y a un ministère apostolique qui fonctionne, il y a des conversions. Il y a des ministères qui se lèvent. Et il y a des églises vivantes qui se créent. Voilà. Quelqu'un se présente comme apôtre. Je suis un apôtre. J'ai écrit 3 livres. Moi, je dis, toi, tes livres, tu les ranges. Que ça, c'est aucune preuve d'authentification. Si, les 3. Fil de sécurité. Portrait filigrane. Portrait fenêtre. C'est conversion. Ministère qui se lève. Église vivante qui se crée. Facile de reconnaître ça. C'est ce qu'on avait toujours dit, Antoine. Sauver une âme, former un ministère, implanter une église. Ça, c'est ma 3e déclaration. Regardez, conversion, ministère libéré, implantation d'église. 4e déclaration. Là, je vais vite. Celui-ci, je vais ralentir un peu quand même. L'apôtre connaîtra de l'opposition. Alors, les oppositions viennent de 2 sources. En fait, je ne dirais pas de sources, il y a une seule source, mais viennent en 2 formes, ou sous 2 formes. La première, c'est des autorités religieuses qui refusent de reconnaître l'autorité spirituelle d'un apôtre et ils méprisent l'homme envoyé. Ça, c'est les autorités. On a l'exemple de Jésus et les pharisiens. C'est un exemple flagrant. Matthieu 23, verset 37. Jésus se lamentait sur la population de Jérusalem. Regardez ce qu'il dit. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes envoyés de Dieu. Boum. Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Alors, t'es quoi, toi, prophète? Toi, t'es quoi? Je suis un envoyé, apôtre de Dieu. Très bien. Lapider, c'est ça. C'est ramasser des cailloux, c'est ramasser des pierres et jeter dessus jusqu'à ce qu'on les tue. Jésus a pleuré parce que Jérusalem, qui était le fief du judaïsme, ceux qui détenaient la loi, ceux qui avaient suivi Moïse, ceux qui étaient le représentant du peuple d'Israël de l'Ancien Testament, eh bien, quand Dieu a envoyé quelqu'un vers eux, ils ont pris des pierres et ils l'ont tué. Paul avait connu cette humiliation dans 1 Corinthiens 4:9, car Dieu, ça me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, les condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. C'est la première forme de l'opposition. La deuxième forme de l'opposition, c'est des adversaires personnels, où il y a des gens qu'on peut nommer, qui se lèvent et qui s'opposent directement au travail de l'apôtre sur le terrain. Donc l'apôtre va toujours attirer cette opposition. C'est normal. Ça fait partie du territoire. Tu ne veux pas de l'opposition, ne sois pas apôtre. Paul s'est retrouvé avec des gens qui ont été nommés ses adversaires, Élymas, nommé dans les actes des apôtres comme l'opposant, comme l'adversaire de Paul par rapport à Sergius Paulus. Donc nommé. Paul, dans ses écrits, il a nommé des adversaires à lui. Il a parlé de Démétrius, l'orfèvre, à Éphèse. Bon, ça, c'était dans les actes des apôtres. Dans ses lettres à Timothée, il a dit « Attention, Alexandre, le forgeron, à Éphèse. » Il les nomme. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Paul, t'es quand même gonflé. Tu nommes dans tes lettres tes adversaires. » Et j'ai dit « Eh, pas mal ça. Moi, je pourrais vous donner quelques noms. » Oh, ça m'a donné envie d'écrire une épître. Hein. Oh, j'en ai quelques-uns qui veulent ma mort. Quelques-uns qui ne demanderaient qu'une seule chose, c'est que je me casse la figure. Que je repars en Australie battu, vaincu, découragé, dépressif. Ils ne demanderaient que ça. Ils ne voudraient surtout pas que l'œuvre de Dieu dans laquelle je m'implique réussisse. Pourquoi? Et ça, je vous parle de pasteur. Vous voulez les noms? Oui, il y a une longue liste, c'est vrai. Paul, quand il essaie d'expliquer aux Corinthiens d'où vient cette opposition, cette source d'opposition qu'il lui-même a vécue en tant qu'apôtre, il appelle ça un ange de Satan. Vous avez lu ça? 2 Corinthiens 12, 7, un ange de Satan qui a été envoyé, lui c'est un envoyé aussi, c'est un apôtre du diable, l'ange de Satan, en effet, il me semble que Dieu a fait de nous apôtres, non, ça c'était le dernier, l'ange de Satan qui est envoyé pour souffleter. Souffleter, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des claques, ça, mettre des coups de pied aussi? Souffleter. Ça vient d'un ange de Satan qui vient pour souffleter quelqu'un qui est un apôtre. Et l'ange de Satan va se produire différemment en fonction de la personne. Je prends mon ami Antoine, parce que vous le connaissez. Qu'est-ce qu'ils ont été, lui et sa femme, souffletés ces dernières années? Ah là 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 là, les problèmes de santé qu'ils ont eus, ils les ont alignés, ils sont abonnés. Alors, Antoine, pour parler d'Antoine, il a eu d'abord les problèmes de dos, il pouvait à peine marcher, il ne pouvait pas conduire, alors c'est pour ça qu'il a acheté une Mercedes. Ben, c'est ce qu'il me dit, alors. Hein, ça fait partie de sa thérapie, tu vois, c'est une Mercedes. C'est bon pour le dos. Et après, il a eu une série de malaises, hein? Et donc, nous, on était à Paris, tu étais venu nous rendre visite, tu as eu un malaise à notre petit déjeuner, pourtant, ce n'était pas ce qu'on t'a servi. Mais ce n'était pas seulement à nous, en Normandie, tu as eu le malaise, et puis ailleurs aussi. Et après, ben, comme si les choses arrivent toujours en série, peu de temps après, ben, tu nous fais cette crise cardiaque, triple pontage, repartir sur le bloc une deuxième fois, avec une Christiane qui m'appelle à 7h du matin à la réunion en larmes, je dis « qu'est-ce qu'elle va me raconter ?»« Il est mort ?»« Non, pas encore. » Mais j'ai cru, hein. Christiane, quand tu m'as appelé 7 heures du matin en linge, je dis, ça y est, elle va m'annoncer qu'il est mort. Ah, elle dit qu'il a été mal servi, là. Et puis alors, Christiane aussi, elle a une série. Bah, Christiane, je suis désolé, mais tout le monde te connaît, hein. Et puis avec, il y avait la thyroïde, et puis il y avait le dos aussi, et puis après, l'année dernière, c'était le cancer du sein, et puis... Je dis, ouh ! Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Ah ben, c'est malchance. C'est de la malchance. Ben, c'est pas de la malchance, ça. Ça, c'est de l'opposition d'un ange de Satan qui leur a été envoyé pour les souffleter. Nous, Denise et moi, on n'a jamais eu tout ça. Je crois que le pire qu'on a eu, c'est Denise, elle a foulé sa cheville une fois. Alors, ils ont eu tout droit à tous les malheurs. Nous, ça va. Ça va. Sauf que nous, on a eu un autre ange qui nous a visités. Ça s'appelle l'ange de la calomnie. Oh, celui-là, il s'est bien amusé sur notre compte, celui-là. Et alors, nous, on est arrivés tout gentiment pour servir le Seigneur, bien que j'avais reçu une prophétie à 23 ans quand on m'a fait la reconnaissance pastorale que j'allais vivre toute ma vie face à l'opposition. Mais quand elle est venue de tous les quartiers, chrétiens surtout, mais aussi le gouvernement, les médias, tout ça, j'ai dit, mais après... Je comprends pas, je suis un gentil, moi. Qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi ils m'aiment pas? Je ne comprenais pas ça. Après, je lui disais, peut-être j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire et je ne le vois pas. Alors, je me suis dit, est-ce que... J'ai dit, non, mais quand même, j'ai peut-être pas fait un parcours sans faute, mais j'ai quand même fait un parcours sans grosse faute. Si j'ai eu des fautes, c'est des petites fautes, quand même. N'exagérons pas, c'est toujours Denise après 37 ans. Oui, et puis je ne suis jamais parti avec la caisse de l'église. Je ne sais pas moi, mais pourquoi ils sont comme ça avec moi? Dernièrement, j'ai entendu qu'en fait, Vincent est devenu un païen. Voilà. Alors, un pasteur, il fait circuler ça. Alors, tu sais, moi, j'ai dit, mais finalement, la seule conclusion auquel j'arrive, c'est que j'ai dû déranger beaucoup de monde. Et c'est pas terminé. Et j'ai surtout dérangé le diable. Et alors lui, il va utiliser tout ce qu'il peut, évangélique ou autre, peu importe, pour attaquer l'œuvre et le plan de Dieu qui doit se faire à travers l'apostolat de quelqu'un envoyé de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il me donne une chance, ces gars-là. Parce que la suite, elle est belle. Quand je suis faible, quand je suis accablé, quand on dit n'importe quoi, quand on m'accuse injustement. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui est accusé injustement ? Qui a été accusé injustement par des religieux. Est-ce que vous en connaissez un autre? Ah, et moi, quand j'entends ça, je me réjouis d'avoir le privilège de vivre ce que Jésus a vécu, mais en petit, mais de vivre ce que Jésus a vécu. Il dit, quand je suis faible, dit Paul, souffleté par l'ange de Satan, quand je suis faible, je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Dans mon état, dans notre état de faiblesse et d'humiliation, Dieu manifeste sa gloire. Alors on est un peu maso, dit. Eh ben, je me réjouis donc dans mes adversités, dans mes souffrances. Je me réjouis. Je suis pas encore là, Paul. Hein. Cinquième déclaration. L'apôtre fonctionnera en équipe. L'apôtre fonctionne en équipe apostolique. Je vous ai parlé ce matin de l'équipe apostolique de Jésus, des disciples nommés apôtres. Mais nous découvrons aussi dans les actes des apôtres et les épîtres, il y a l'équipe apostolique de Paul, où il y avait une collaboration avec plusieurs qui sont des ministères, Barnabas, Timothée, Luc, Silas, Tite et plusieurs d'autres. Il y avait l'équipe de Pierre, Jacques et Jean à Jérusalem. Pierre et Jean, surtout, ont voyagé. Samarie, c'est eux qui sont passés devant le temple et puis ils ont guéri l'homme paralysé. Ça, c'était l'équipe de Pierre. Paul, quand il est monté se présenter, les rencontrer, il a rencontré pas un, il a rencontré une équipe. Il y a aussi l'équipe des ministères d'Antioche, l'équipe de Barnabas, je les appelle, parce que Barnabas est mentionné en premier, et puis avant que ce soit Paul et Barnabas, c'était Barnabas et Paul. Oui? C'était l'équipe de Barnabas. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manaen et Saul, pardon. Mais on voit aussi des tensions dans les équipes. Pierre et Paul, il y a eu des tensions dans Galates. Paul, il n'a pas trop apprécié l'hypocrisie de Pierre et il lui a dit, c'est Paul quand même. Et puis Barnabas et Paul se sont heurtés pour une question de personne. Paul ne supportait pas un abandon. Barnabas, lié relationnellement, familialement, eh bien, lui, il a essayé de protéger. Donc, il y a eu rupture qui est là. Donc, attention, parce que des équipes apostoliques vont quand même être testées. Et il y aura des événements, et puis il peut y avoir des tensions et même des séparations. Donc, la conclusion que je tire, c'est qu'on ne peut pas faire équipe avec tout le monde. Et il faut être sûr que les conditions sont réunies pour vraiment faire équipe long terme avec d'autres ministères. Et alors, quelques conditions que j'estime, et puis ça, je vous les livre en fonction de mon expérience, eh bien, moi, j'ai repéré plusieurs qui sont indispensables pour que deux hommes, femmes aussi, fassent route ensemble pendant un long moment dans le ministère. Premièrement, la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, eh bien, ça veut dire qu'on ne comprend plus que c'est Dieu qui a envoyé l'autre. S'il n'y a plus la crainte de Dieu. Et j'ai dû regretter que des gens même que j'avais installés dans le ministère, sur qui j'ai posé mes mains et que je les ai encouragés, accompagnés, libérés dans le ministère, après, ils ont perdu la crainte de Dieu par rapport à la personne que j'étais. Alors, c'était fini. La crainte de Dieu, ça veut dire que moi et Antoine, moi quand je vois Antoine, j'ai dit c'est Dieu qui a envoyé Antoine. Il ne faut pas le toucher là, il faut l'encourager, il faut participer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. C'est pas juste un autre mec. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé. Et donc c'est la base de l'honneur qu'on porte à un ministère. De toujours se rappeler que derrière, c'est Dieu qui l'a envoyé. Deuxième chose, c'est le respect pour l'autorité spirituelle. Il porte une autorité sur lui. Je le respecte. Si je perds le respect de l'autorité spirituelle, c'est comme un enfant qui perd le respect pour son père. C'est terrible ça. Hein? Quand l'enfant n'écoute plus le père, quand l'enfant critique, quand il se moque du père, c'est terrible d'en être là. Parce qu'il a oublié, il a perdu le respect pour l'autorité du père. C'est comme le citoyen qui perd le respect pour la police. J'étais dans la rue l'autre jour et puis j'ai vu deux policiers qui ont passé et un jeune qui leur a balancé un truc, mais bien sûr dans le dos. Alors tous les deux sont retournés pour voir qui c'était. Quand on perd l'autorité, en tant que citoyen, on perd l'autorité pour la police, c'est l'anarchie. Donc le respect pour l'autorité spirituelle que porte la personne, je dirais un autre aspect, c'est la maturité. La maturité, pourquoi? Parce que la maturité nous empêche d'être susceptibles. Ça nous empêche des bouderies. Ça nous empêche d'être vexés trop facilement. Pourquoi est-ce que les gens se séparent? Pourquoi les gens arrêtent de se parler? Pourquoi ils ne retrouvent plus plaisir de travailler ensemble? Parce qu'ils sont blessés. Mais âme sensible qu'ils s'abstiennent dans ce travail. Si tu vas te vexer parce que j'ai oublié ton nom en arrivant cet après-midi ou ce matin, tu ne vas pas durer très longtemps dans le ministère, mon ami. Il y a besoin d'une certaine maturité pour passer outre Moi, j'ai eu des gens qui voulaient travailler avec moi et j'ai commencé à voir des traits de susceptibilité. Je pense à une personne particulière et puis quand j'ai vu que la personne était susceptible et puis la moindre chose, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, tout d'un coup, je voyais la petite larmette à l'œil. J'ai dit, mince. Alors un jour, j'en ai eu marre et puis j'ai appelé la personne et j'ai dit, tu veux travailler avec moi? Oui. J'ai dit, écoute, je ne travaille pas avec des gens susceptibles. Alors moi, je ne peux pas gérer qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce que j'aurais dû dire. Je ne peux pas gérer ça. Alors règle ton problème, et là c'est bon. La personne a pris ça à cœur, du jour au lendemain elle a réglé son problème, et je travaille avec cette personne depuis de longues années. Parce qu'elle a réglé son problème d'immaturité, d'instabilité, d'insécurité et de susceptibilité. Vous voulez noter tout ça? Si vous voulez virer quelque chose, eh bien, virez tout ça. Parce qu'on n'a pas le droit d'être des âmes sensibles dans le ministère. Des cœurs sensibles, oui, mais des âmes sensibles, non. Quatrième, rapidement, la générosité. La générosité, c'est le don de soi. La générosité, c'est son temps, mais c'est son engagement, son enthousiasme, dans un esprit de sacrifice. Je passe. Ils sont là derrière vous. Et enfin, la capacité de jouer collectif. Que le ministère, c'est pour pas que toi, tu t'épanouisses. Vous me comprenez? Le ministère, c'est pas toi qui te réalise devant Dieu. C'est pas toi qui permet de te sentir bien parce que les gens reconnaissent ce que Dieu t'a donné. On s'en fout. Toi et ton besoin d'épanouissement, on s'en fout. Tu n'es pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour ça. Une fois, il y a une femme, j'avais fait un mariage, et puis c'était une païenne qui était à côté de moi pendant le repas, et ils font toujours ça avec moi. Hein. Ils m'invitent au repas, et puis ils me mettent avec la pire des personnes à côté de moi. Tu vois. Ils vont dire, ah, il va le convertir, il va la convertir. Tu vois. Et ben, j'étais bien servi ce jour-là, et puis elle m'a regardé comme ça, elle dit, mais monsieur le pasteur, est-ce que ça ne vous donne pas un sentiment de pouvoir un prêcher devant tous ces gens? Et j'ai dit, quoi? J'ai dit, madame, vous regardez trop de télé. Vous regardez trop de la télé. Oui. On n'est pas là pour moi. On n'est pas là pour que vous m'applaudissiez. On n'est pas là pour que... Vous n'êtes pas là non plus pour ça. On est là parce qu'on doit jouer collectif. Il y a un match à gagner. Et pour gagner, on doit jouer ensemble. Et que ce soit toi ou quelqu'un d'autre qui marque. C'est... Peu importe qui marque le but, l'important c'est qu'à la fin de la partie, l'équipe a gagné. Quand j'étais à l'école, j'ai joué au rugby et la chose qui a été le plus néfaste pour notre équipe, c'était que les papas des autres membres de l'équipe offraient de l'argent à leurs fils si c'était eux qui marquaient l'essai. À partir de ce moment-là, il y avait un intérêt personnel et la passe qu'on devait faire pour que l'autre marque, eh bien, il ne la faisait pas pour essayer, lui, de marquer. Il ne jouait plus collectif parce que maintenant, c'était lui qui devait marquer parce que derrière, il y avait des sous. La capacité de jouer collectif. Alors, si tu as besoin de t'épanouir quelque part, je ne sais pas, aller chanter sur La France un incroyable talent. Ben, allez-y. Allez-y. Si tu gagnes, eh bien, on va te connaître. Mais ne fais pas de l'œuvre de Dieu La France un incroyable talent. Et la dernière déclaration, et on va s'arrêter avec cela. Et pour ça, eh bien, on va lire un passage. Le rôle de l'apôtre dans le combat contre le diable. On est dans un combat. Et ce n'est pas juste subir. Hein, parce qu'on prend quelques coups, mais on doit en donner aussi. Hein, dans un combat. Hein, le combat de la foi. Combat de la foi, c'est quoi? C'est punching bag. J'ai battu le bon combat. Ah, il faut savoir donner des coups. Hein, dans un combat. Et alors, on va regarder un passage que j'ai toujours trouvé très intriguant. Parce que ça nous donne un aperçu dans le monde spirituel, dans les couloirs de l'enfer. Acte 19, 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus. Des juifs. Et ben, au nom de Moïse, ça ne marchait pas. Donc, ils ont essayé le nom de Jésus pour voir si ça pouvait marcher. De prononcer le nom de Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais, ils disaient, « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sceva. Donc, il y a une équipe d'exorcistes juifs. Un juif chef des prêtres. Donc, ils sont dans l'institution, là aussi. L'esprit mauvais répond. Le démon le répond. L'esprit mauvais le répond. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous êtes qui, vous? Je vous connais pas. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attendez. Alors, l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux et les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Ah là là, quand j'ai vu ça, j'ai compris, le diable connaît Jésus. Bon, ça, c'est réglé. Connaît Jésus. Il reconnaît Paul aussi. Ah, on parlait de Paul dans les coulisses. On dit, ce Paul-là, qu'est-ce qui nous fait des misères, là? Avec ses prédications, et puis avec son ministère, et puis avec ses églises qui commencent, et puis avec les délivrances et les ministères qui libèrent, et il nous fait du mal. Mais pour les autres, on ne les connaît pas. Ah ouais. Donc l'apôtre fait reculer le diable. L'apôtre. Et pour le reste, ils ne les connaissent pas. Quand même étonnant, ça. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas vivre ma vie avec un démon qui me dit, et vous êtes qui, vous? Ah, moi, je ne pouvais pas supporter ça, cette idée. Moi, j'ai dit, au moins, je veux me retrouver avec Paul en disant, ben oui, Paul et Esterman, on les connaît, là. On les connaît, ils nous ont fait du mal. Mais tant mieux. Mais l'idée que le diable ne me connaît même pas, ah, ça m'a vraiment attristé. Il ne me connaît pas, le diable. Je ne l'embête pas assez. Peut-être que j'ai besoin de l'avantage de l'embêter pour qu'il me connaisse. Peut-être que j'ai besoin de gagner un peu plus de terrain. Peut-être que j'ai besoin de faire partie de l'équipe de Paul, parce que Paul est connu, l'apôtre. Et quand je vois ça, j'imagine l'apôtre, l'équipe apostolique, comme dans les vieux westerns. Vous vous souvenez des vieux westerns, hein? Et puis le nouveau shérif arrive dans la ville. Avec son grand chapeau. Et l'apôtre arrive dans la ville pour la nettoyer. Il a son badge qui brille au soleil. Et les méchants sortent du bar et le voient et détournent le regard. Et curieusement, ils sont tous habillés en noir. Et tu entends la musique derrière. Do not forsake me, oh my darling. L'apôtre, il rentre dans sa ville pour la nettoyer. Hallelujah. Finalement, le diable connaît Jésus. Il connaît les apôtres. Mais il dit aux autres, mais vous êtes qui? J'aimerais vous dire aujourd'hui, le diable dit cela à beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui, qui sont devenues des temples faits de mains d'hommes, et le diable les regarde des temples sans Dieu et qui disent, et vous, vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Ce soir, eh bien, nous inaugurons Emma. Emma veut retrouver l'importance du ministère de l'apôtre et les autres ministères qui vont avec. Pourquoi est-ce qu'on veut ça? Pour qu'on donne des titres? Pas du tout. Mais pour qu'on invite Dieu à revenir dans sa maison. On invite Dieu à construire une maison qui sera son habitation. Et dans cela, nous représentons une vraie menace au diable et une vraie menace au royaume des ténèbres. Et je m'en réjouis. Alors, si l'ange de Satan, il a encore des pierres à me jeter, j'apprends aussi à faire ça. Mais ça fait partie de cette victoire qui est la nôtre et qui sera remportée par des hommes et des femmes que Dieu a envoyés, avec lesquels nous faisons équipe pour que Dieu soit de nouveau au centre de son œuvre. Je vous invite à vous lever ce soir. Je vais demander à tous les pasteurs et leurs épouses de venir sur le devant, s'il vous plaît. Tous les pasteurs et les épouses, venir sur le devant. Ce n'est pas les pasteurs autoproclamés, hein, ce soir. Ce sont ceux qui exercent le ministère de pasteur dans une communauté. Daniel, tu peux t'avancer, excuse-moi. Mais... La bénédiction de Dieu pour ses églises dépend d'eux. Ne dépendent pas des conseils d'administration de leurs églises. Je vous demande tous d'assumer cette responsabilité. De ne pas vous laisser intimider par des gens qui veulent vous contrôler, ni à l'intérieur de vos églises, ni à l'extérieur. Je vous invite à ne pas être des moutons qui suivent bêtement pour garder la paix. Il y aura des fois, pour certains d'entre vous, qu'il y aura des prises de position qui vont vous coûter. Il y a des gens qui vont vous coûter si vous dites quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre. Ça va peut-être vous coûter au niveau des finances, je ne veux pas vous faire peur. Mais Dieu est plus grand que les finances. Amen. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore pris une décision par rapport à Emma, eh bien, moi, je vous dis, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous nous connaissez, vous savez où on va. Vous êtes là parce que ça correspond à ce que vous voulez. Ça correspond à ce que vous comprenez de l'œuvre de Dieu. Non, je ne vous bouscule pas, mais je ne vais pas vous laisser encore 6 mois de réflexion. Jésus, il a dit à Zachée, aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. Aujourd'hui. Zachée n'a pas dit, tu ne pourrais pas revenir la semaine prochaine, j'ai besoin de réfléchir et en parler à ma femme. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vous dire, moi je ne viendrai pas devant chacun en disant, et toi, je ne vais pas faire ça. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous demander d'assumer la conviction de ton cœur et d'avoir le courage de faire les choses différemment Parce que toi, tu es appelé de Dieu à avoir un rôle que d'autres ne comprennent même pas. Le rôle que tu as. Tu as besoin d'expliquer, c'est vrai, mais tu as besoin, toi, en ce qui te concerne, d'agir. Pour moi, quand je me suis retrouvé devant des incohérences du mouvement qu'avec Antoine, j'ai fondé en 89, je n'ai pas passé 6 mois à m'interroger. Ah non, non. Les choses étaient claires. Maintenant, il y avait qu'à agir, c'est ça. Il n'y avait qu'à agir. Et moi, j'aimerais vous dire que, pour certains d'entre vous, ce n'est pas la réflexion qu'il faut, c'est le courage de l'action qu'il vous faut. Alors, on va juste se tenir devant Dieu, et on va réaffirmer que dans nos églises, ce ne sera pas un temple fait de la main d'homme.
Amen.
Que ton église est comme Emma, ne sera pas quelque chose qui est un business bien huilé, comme si on avait une entreprise quelque part. Qu'avant tout, c'est Dieu. Moi, je peux vous dire, en ce qui concerne Emma, moi, je ne veux pas répéter les mêmes erreurs de jeunesse que nous avons connues avec Vie chrétienne en France. Si on a les mêmes principes et le même feu et la même passion, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a l'expérience. Il y a ce qu'on veut, et il y a aussi ce qu'on ne veut plus. Et c'est pour ça que moi, avec les autres responsables d'Emma, moi j'ai dit, est-ce qu'on a besoin vraiment de ça? Est-ce que ça, c'est nécessaire? Est-ce que ça apporte finalement quelque chose qui va favoriser l'œuvre de Dieu? Ben, ça, c'est une question. Mais vous pouvez, en ce qui me concerne, vous allez savoir que moi, je veux le minimum au niveau d'une structure. Parce que Vie chrétienne en France, c'était le minimum pour pouvoir faire le maximum pour vous. Que la fédération était là au service des églises et ce n'était pas les églises qui étaient au service de la fédération. Vous me suivez? Et je ne sais pas exactement comment que ça s'est passé, mais au fil des années, ça se produit comme ça. Alors, faites-nous confiance qu'aujourd'hui, nous n'allons pas répéter ces erreurs et nous allons vraiment constamment... J'ai vraiment aimé ce que Antoine a dit. Tous les 7 ans, on va refaire un bilan et casser tout ce qui ne favorise pas Dieu. Moi, je trouve que 7 ans, c'est un peu loin. Tu sais, s'il faut attendre 7 ans pour virer un président, eh bien, ils ont ramené ça à 5 ans. Tu vois? Alors, c'est mieux. Avec ce qu'on vient de vivre, ramener ça à 3 ans, ce serait encore mieux, tu vois. Mais nous, on veut Dieu. Nous, on veut Dieu. On a assez. On a tellement vu. J'ai tellement pastoral, tellement de réunions, tellement de confédérations, tellement de dialogues, tellement de réunions pour discuter de ça et de ci, et des communiqués, et puis une opposition sur ça, une opposition sur ça. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Alors, je me demande si ce soir, bon, sauf si vous avez de l'arthrose. Mais, et si on se mettait à genoux? Et on s'humiliait devant Dieu. Dieu fait grâce aux humbles, vous savez. Dieu fait grâce. Si vraiment c'est difficile de vous mettre à genoux, eh bien, prenez une des chaises devant. Puis je vous invite tous à vous mettre à genoux devant Dieu. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un au clavier? Étienne, tu peux te mettre au clavier, merci. Mais tu dis Dieu, vas-y, prie Dieu. Dieu, viens. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu chez nous, Dieu. Sois le bienvenu chez nous.
On a tellement envie de toi, on a tellement soif de toi. On a tellement envie de te laisser toute la place. On a tellement envie de voir des vies transformées, de voir des miracles, de pouvoir aimer, de pouvoir être de vrais chrétiens et pas des chrétiens méchants. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens méchants, j'ai découvert. Mais nous, on veut être des chrétiens gentils. Des chrétiens qui aiment. Des chrétiens qui ont soif de la présence. Soif de l'œuvre. D'un Dieu qui ouvre des portes. Un Dieu qui n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Les hommes et les femmes dont ce monde n'est pas digne. Dieu, on a soif de toi. On a soif de toi. On a soif de toi. On a soif de toi, Seigneur. On a soif de toi. On veut ta présence, Seigneur. On veut que tu sois glorifié. On a assez, Seigneur, de voir la religion s'emparer des églises évangéliques dans notre pays. On est prêt, Seigneur, à assumer ça et on n'a pas honte de dire qu'il y a beaucoup de choses, Seigneur, que ne sont pas forcément utiles. On veut que nos moments de louange soient bouillants de ton onction, de ta présence. Quand nous rentrons dans l'adoration, nous sommes transportés par ton esprit devant le trône et là, les yeux ouverts, nous voyons Jésus. Sachant qu'un jour, nous te verrons face à face. Quand nous apportons la parole de Dieu, ce ne sera pas des mises en garde, des avertissements, des interdits, mais cette parole va nous transporter dans un autre monde, un autre royaume, vers une autre éternité. Que de nouveau, tu fais que nos cœurs vibrent avec un amour qui vient d'en haut. Un amour pour les gens, pas juste pour ses amis, pas l'amour païen qui aime ses amis et sa famille, et puis pour les autres, on n'en a rien à faire. Mais un amour pour l'être humain. Dieu, Dieu, entend notre cri, entend notre cri. On ne peut pas faire sans toi. Nous voulons, Seigneur, faire cette dédicace d'Emma cet après-midi. C'est le début d'une nouvelle aventure. Nous ne savons pas où tu vas nous conduire dans les années à venir, qui seront avec nous, même l'année prochaine. Les histoires, les témoignages de gloire que nous allons pouvoir partager, de combats et de victoires aussi. Si c'est toi qui as mis à cœur les 1000 églises pour Antoine, eh bien le pays entier sera touché. Et pourquoi pas? Alors Jésus, viens de nouveau au milieu de nous. Tu es le chef de cette église, Emma. Tu es le chef. Et nous t'honorons. Et nous t'accueillons et nous t'écoutons. Et nous te suivrons. Et nous te suivrons. Et nous te suivrons. Alléluia. Et nous te suivrons. Amen.
demande si, Annie Hood, est-ce qu'on pourrait reprendre le chant qu'on a chanté « Je te suivrai, Jésus » qu'on a chanté ce matin? Il y a Fred qui est là, il y a toi, vous avez vos guitares, il y a qui était à la batterie, c'était Germe, tu mets à la batterie. J'aimerais qu'on termine avec ce chant qu'on a chanté ce matin. Jésus, je te suivrai, je te suivrai. Je te suivrai. Si le groupe peut venir. J'ai eu beaucoup de plaisir de vous prêcher ce matin et cet après-midi. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je vois que vous êtes aussi réactifs qu'avant. J'aime bien vous provoquer. Merci. Merci. Allez, Dream, à la prochaine.
Excusez-moi, mais on va ramasser les badges. On va ramasser les badges, on va voir qui se prépare là. Rebecca, tu es prête? D'accord, merci beaucoup.